Eroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Nathalie Barge et Jacques Aristide pour vous présenter cette édition du 31 mai 2019.
En RDC, hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Sa dépouille est exposée au Stade des Martyrs à Kinshasa.
En République centrafricaine, le groupe armé 3R va démanteler ses bases et livrer aux autorités les présumés coupables de récents massacres.
L'interdiction d'utiliser de produire des sacs en plastique entre en vigueur samedi en Tanzanie.
Pékin crée une liste noire d'entreprises étrangères non fiables en réponse à l'offensive américaine contre Huawei.
Et comme à l'accoutumée, voici les sports, la rubrique économique et sportive sera à venir après le journal.
La République démocratique du Congo rend hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, dont le corps a été rapatrié hier à Kinshasa, 2 ans après sa mort à Bruxelles. La dépouille du père de l'actuel président est exposée au stade de Martyrs à Kinshasa. Abdourahman Dia.
Félix Tshisekedi est arrivé au stade des Martyrs pour les hommages à Étienne Tshisekedi. Il s'est incliné devant la dépouille de son père. Parmi les personnalités étrangères, il y a Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço de l'Angola. La présence à Kinshasa de Paul Kagame pour la première fois depuis des années marque un pas supplémentaire dans le réchauffement des relations entre les deux pays. Le président rwandais est l'invité d'honneur de ses funérailles. La cérémonie officielle avec les autorités civiles, militaires et religieuses est prévue demain samedi. L'inhumation aura lieu dans l'après-midi dans la commune de Sélé. Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles.
Le gouvernement centrafricain a annoncé que le groupe armé 3R allait démanteler ses barrages. Claire Moragibour nous en dit plus.
La déclaration a été faite par Saïdou Aliou, le représentant des 3R, au sein du comité exécutif de suivi de l'accord de paix qui s'est réuni jeudi. Les bases de ce groupe vont être démantelées et les coupables des massacres vont être remis aux autorités nationales. La semaine dernière, au moins 50 personnes ont été tuées dans l'ouest du pays. Dans un communiqué, le comité de suivi de l'accord de paix de Khartoum a également annoncé la création de structures pour surveiller les violations de l'accord et suivre l'évolution de la suppression des barrages, les taxations illégales ou l'occupation de bâtiments administratifs par les groupes armés. L'accord de Khartoum a été signé début février à Bangui entre les 14 groupes armés et les autorités. C'est le 8e accord de paix signé depuis le début de la crise en 2013.
En Algérie, les manifestants continuent de descendre dans les rues de la capitale malgré des arrestations. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Pas d'élection avec le gang au pouvoir, pas de dialogue avec le gang et le pouvoir. On scandait les manifestants qui désignent sous le terme de gang les dirigeants toujours en place après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Des policiers ont procédé à de nombreuses arrestations, mais les interpellations se sont faites plus rares à mesure que la foule grossissait. Rejetée par les manifestants, la présidentielle prévue le 4 juillet apparaît de plus en plus compromise. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a réclamé des concessions mutuelles dans le cadre d'un dialogue dont il n'a pas défini les formes. Il continue de soutenir l'idée d'une présidentielle dans les plus brefs délais. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant le 5 juin sur la validité des 2 dossiers de candidature déposés par d'illustres inconnus. Il semble cependant peu probable qu'ils aient rempli les conditions requises, dont 600 parrainages d'élus ou 60 000 parrainages d'électeurs.
L'interdiction d'utiliser et de produire des sacs en plastique entre en vigueur samedi en Tanzanie. 34e pays africain a appliqué ce type de mesure. Le pays a décidé d'interdire l'importation, la production, la vente et l'usage de sacs en plastique. Les autorités ont diffusé une notice à l'intention des touristes spécifiant qu'ils devront se débarrasser de leurs sacs en plastique avant d'entrer dans le pays. Toute personne accusée de produire ou importer des sacs ou des emballages en plastique encourt une amende de $430,000 ou une peine de prison de 2 ans maximum. La possession et l'utilisation de sacs en plastique peuvent déboucher sur une amende de $87 et ou une peine d'emprisonnement de 7 jours. 127 pays dans le monde ont une législation régissant l'usage des sacs en plastique.
Une fonctionnaire nigériane qui avait assuré qu'un serpent avait avalé $100,000 d'argent public a été inculpée pour détournement de fonds aujourd'hui à la suite d'une plainte de l'Agence nationale anticorruption. Philomena Chiesse, comptable au ministère local de l'éducation pour l'état de Benue, a comparu aux côtés de 5 co-accusés devant la haute cour d'Abuja, a déclaré la commission des crimes économiques et financiers. Ses employés ont été arrêtés en 2018 après une enquête accusant d'avoir volé plus de $97,000 destinés aux universités.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à l'offensive de Donald Trump, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a défendu son action dans la crise migratoire sans remettre en cause la ratification de l'accord de libre-échange nord-américain. Voici le compte-rendu avec Bagassikoura.
Nous faisons le boulot pour stopper le flux de migrants, a insisté López Obrador au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump de la mise en place de tarifs douaniers de 5% sur tous les biens en provenance du Mexique qui pourraient progressivement augmenter. Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'un des fers de lance de sa présidence, considère que Mexico ne fait pas le nécessaire pour stopper le flux. Les mesures coercitives ne conduisent à rien de bon, a répliqué le président mexicain de gauche. López Obrador a indiqué avoir envoyé une délégation à Washington pour expliquer et défendre son plan pour freiner l'immigration en provenance d'Amérique centrale.
Pour sa part, la Chine a annoncé aujourd'hui la création de sa propre liste noire d'entreprises étrangères non fiables. En réponse à l'offensive américaine contre Huawei, cette menace intervient au moment où de nouvelles surtaxes doivent entrer en vigueur demain en Chine sur des produits américains en représailles aux hausses de droits de douane annoncées par Donald Trump début mai sur des produits chinois.
Et cette lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine en Asie a dominé l'ouverture aujourd'hui d'une conférence de sécurité régionale à Singapour. Le chef par intérim du Pentagone, Patrick Shanahan, et le ministre chinois de la Défense, Wei Feng, ont discuté pendant une vingtaine de minutes des moyens d'approfondir les relations militaires entre leurs deux pays en marge du forum annuel Shangri-La Dialogue.
Pyongyang est accusé d'avoir exécuté son émissaire pour les États-Unis après le fiasco en février dernier à Hanoï du second sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. C'est du moins ce que rapporte ce vendredi un journal sud-coréen. Le Chosun Ilbo affirme que Kim Yok-chol, qui avait réalisé le travail préparatoire avant le sommet et voyagé jusqu'à la capitale vietnamienne, a été fusillé. 4 autres responsables du ministère des Affaires étrangères ont également été exécutés, d'après ce journal.
Les stocks iraniens d'eau lourde et d'uranium enrichi sont en hausse mais ne dépassent pas les limites autorisées par l'accord nucléaire de 2015. C'est ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique après l'annonce par Téhéran le 8 mai dernier qu'il ne s'estimait plus tenu à ses plafonds. C'était en protestation contre le retrait unilatéral américain de ce pacte et le rétablissement par Washington de sanctions affectant les économie du pays.
Près de 950 personnes, en majorité des combattants, et environ un tiers de civils ont péri en un mois d'escalade du régime syrien et de son allié russe contre des zones djihadistes de la province d'Idleb et ses environs. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui le dit ce vendredi. La grande partie de la région d'Idleb dans le nord-ouest du pays en guerre, ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, d'Alep et de Latakié, sont tenus par Ayad Tahrir al-Cham, une ancienne branche d'Al-Qaïda. Ce dernier grand bastion insurgé en Syrie échappe toujours au contrôle de Damas.
Le pape François est arrivé en Roumanie aujourd'hui pour une visite de 3 jours destinée à renforcer le dialogue avec l'Église orthodoxe majoritaire et apporter son soutien aux minorités, tant religieuses qu'ethniques. 5 jours après un scrutin européen marqué par une montée des mouvements nationalistes à travers le continent, le pontife a tenu à saluer les millions d'émigrés roumains partis travailler dans l'ouest de l'Union européenne. Des dizaines de milliers de Roumains sont attendus dans les rues de Bucarest pour cette visite historique qui intervient 20 ans après celle qu'avait effectuée Jean-Paul II.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Le gouvernement malien a accordé à Desert Gold un renouvellement de 3 ans de son permis d'exploration aurifère d'Imbala qui couvre 100 km² au sud du Mali. Desert Gold dispose d'une option pouvant lui permettre de prolonger la durée de validité de la licence de 2 à 4 ans supplémentaires. La société prévoit de développer un certain nombre de cibles sur lesquelles aucune activité n'a été menée à ce jour. Le promoteur immobilier turc en son groupe a remporté un contrat de $520 millions pour la construction de 10 000 logements sociaux en Angola. Anson Group avait déjà remporté en 2016 un contrat de $2,8 milliards auprès du gouvernement angolais pour la construction de 40 000 logements destinés à des militaires. Ce projet devrait être achevé en 2021. Pour terminer, le consortium Bravura dépensera plus de $50 millions pour l'exploration et l'extraction de platine au Zimbabwe. Ce pays cherche à exploiter ses réserves de platine, de plus en plus demandées dans les convertisseurs catalytiques, pour limiter les émissions alors que les constructeurs automobiles se tournent vers la fabrication de voitures électriques alimentées par des batteries au lithium.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Finale NBA, Pascal Siakam dévore Golden State.
Et oui, l'ailier camerounais de Toronto a écœuré le double champion en titre battu 118-109. En ouverture de la finale 2019, Pascal Siakam, 25 ans, a marqué 32 points et fait capituler Stephen Curry et ses coéquipiers avec son impressionnante efficacité au tir, 14-17, sans oublier 8 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. Des statistiques qui lui permettent de rejoindre le club très fermé de Shaquille O'Neal, Michael Jordan ou encore Karim Abdul-Jabbar. Siakam est désormais le 7e joueur de l'histoire à marquer plus de 30 points, avec une réussite au tir supérieure à 80% dans un match d'une finale NBA. Avant le match numéro 2 qui aura lieu ce dimanche, Toronto est la première équipe à avoir battu Golden State dans un match numéro 1 d'une finale depuis 2015.
En football, Yacouba, objectif, titre et record pour Espérance Tunis en Ligue des Champions ce soir.
Oui, après un match aller riche en débats autour de l'arbitrage, place à l'acte 2 de la finale de la Ligue des Champions. À Tunis, entre l'Espérance Sportive et le Wydad Casablanca, le match aller s'est soldé sur un score de 1-1, mais a surtout été marqué par les décisions arbitrales litigieuses. L'officiel égyptien a annulé un but marocain pour faute de main douteuse. Il a ensuite refusé un pénalty au Wydad sur une main tunisienne litigieuse. Sur plainte de la Fédération Royale Marocaine de Football, l'arbitre Gehad Grisha a été suspendu par la CAF. C'est le Gambien Bakary Gassama qui dirigera le match retour. Coup d'envoi 21h, temps universel.
Cannes 2019, Aliou Cissé convoque 25 Lions.
Le coach des Lions de la Teranga a publié une liste de 25 retenues pour le stage de préparation à la Cannes 2019. Aliou Cissé a joué la carte de la stabilité en convoquant des joueurs qui sont dans son groupe depuis le début des éliminatoires, à l'exception d'Henri Savette qui effectue son retour après une longue absence. Ce groupe sera ramené à 23 joueurs pour la phase finale. Les joueurs convoqués sont attendus le 4 juin à Sali, au Sénégal donc, pour un stage de préparation. Rappelons que le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, de l'Algérie et du Kenya.
Quant au Nigeria, il est en 8e de finale du mondial des moins de 20 ans.
Oui, opposé à l'Ukraine dans son 3e match dans le groupe D, le Nigeria n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1. Mené à la 30e minute, les Flying Eagles ont réussi à arracher l'égalisation à la 51e grâce à un pénalty de Mohamed Tidjani. Un match nul salvateur qui leur permet de glaner 4 points et de terminer dans les 4 meilleurs 3e des 6 groupes de la compétition.
Yacouba Ouedraogo, merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Jacques Aristide, toujours avec vous pour vous présenter à présent les dossiers du jour dans Le Monde aujourd'hui.
Après le rapatriement, un jour de communion populaire. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire de l'actuelle République démocratique du Congo, est exposée aujourd'hui au stade de martyrs de Kinshasa. Un deuil longtemps différé qui permet au pays d'apaiser de vieilles tensions politiques. Le président Félix Tshisekedi est venu se recueillir devant la dépouille mortuaire de son père et mentor en compagnie d'homologues africains, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço. Sur place, le reportage de Walter Nkoui de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Tout a débuté en début d'après-midi avec la procession funéraire qui a conduit la dépouille de l'illustre disparu au stade des martyrs de la Pentecôte. Le cortège a fait son entrée sous une musique religieuse avec acclamation de la foule. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est sous les ovations d'une foule immense que le président de la République s'est incliné devant le cercueil de son défunt père avant de monter sur la tribune d'honneur, saluer les membres de famille et quelques officiels dont ministre et chef des corps diplomatiques. Des chefs d'État étrangers, l'Angolais João Lourenço et le Rwandais Paul Kagame sont arrivés 15 minutes plus tard. La messe des suffrages devrait être officiée par l'archevêque métropolitain Mgr Fridolin Ambongo à partir de 21h30 va débuter la veillée mortuaire. Samedi à 9h, ça sera la cérémonie officielle qui va se terminer par l'inhumation de l'ancien Premier ministre à 16h au mausolée familial de Lancélé. C'est un moment de fête que vivent différentes personnes venues rendre le dernier hommage à Étienne Tshisekedi. Joachim Denika est membre de l'UDPS.
C'est une journée de joie et nous devons être dans la fête et non dans la tristesse parce que cet homme a tant lutté pour qu'aujourd'hui nous arrivions au pouvoir. Donc c'est comme le Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Christ.
Des tiraillements observés depuis un temps au sein de l'UDPS, l'enterrement d'Étienne Tshisekedi ne va-t-il pas emporter le parti? Paul Chilumbu, porte-parole de l'UDPS, reste confiant sur la capacité des acteurs de ce parti de privilégier l'intérêt général.
L'école de Tshisekedi a toujours privilégié le choc des idées. Nous sommes le seul parti au sein duquel vous allez trouver les gens discutent statut, droit. Moi, je reste optimiste et je sais que quelles que soient peut-être les divergences qui peuvent être entre nous, je sais que nous finirons par trouver une solution. Mais ce qui est plus important, c'est privilégier d'abord l'intérêt du parti, privilégier l'intérêt des Congolais.
Depuis le stade des martyrs de la Pentecôte, Walter Nkoui de Top Congo pour VOA Afrique.
Et Walter Nkiu a également recueilli d'autres réactions de dirigeants de l'UDPS.
Tout ce que je peux dire, que c'est un moment de beaucoup d'émotion. Vous savez, nous avons attendu ce moment pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, enfin, nous allons rendre des hommages mérités à ce grand homme. Je crois que Dieu a entendu nos prières et le moment tant attendu est là. Merci.
Sentiment de tristesse. Alors, je pense que nous avons perdu une icône, mais nous sommes là pour continuer avec sa vision, voilà, au niveau de l'UDPS.
Étienne Tshisekedi, c'est un esprit, c'est une culture, c'est une vision. Vous savez, Tshisekedi a accompli sa mission, c'est un exemple à suivre. Vous savez, c'est un monsieur qui a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Souvenez-vous, lorsqu'il est nommé Premier ministre, la première des choses, c'est de vous dire à vous, qui êtes de la presse, de fouiller vos nez partout pour dénicher toute antivaleur, tout détournement. Et donc, c'est une vision politique, c'est une culture, c'est un baobab qui est mort.
C'était des réactions de dirigeants de l'UDPS aux obsèques d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Et maintenant, cap sur le Niger, où plusieurs villes, dont la capitale, sont soumises depuis le début de la semaine à de gros délestages en raison de fortes perturbations dans la fourniture du courant acheminé depuis le Nigeria voisin. Si les habitants de Niamey sont habitués aux coupures fréquentes, la situation actuelle est exceptionnelle, avec les absences de courant qui coïncident avec la période de Ramadan et une forte canicule. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Nous venons ici pour le travail. Il n'y a pas de l'électricité pour travailler.
Sans électricité, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail.
Sans le courant, on ne peut rien faire. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si c'est un repos forcé.
La situation est dure pour tous, surtout avec le jeûne du mois béni de Ramadan.
C'est le chaos total. C'est le blackout qui est là. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas du jus. Même le minimum pour la rupture du jeûne, ça veut dire que tu ne peux pas trouver de l'eau fraîche pour boire. Ça, c'est dans la capitale. Pour la question que je renvoie au gouvernement, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut tout simplement que chacun allait se débrouiller. Ou bien, c'est quoi la solution?
Les explications que donne la Nigérienne de l'électricité, la chute de 2 pylônes et la panne depuis fin 2018 d'un groupe électrogène d'une des centrales de Niamey ne convainquent pas beaucoup de citoyens.
Ça, c'est vrai. C'est une sorte de manque de professionnalisme du DG qui vient à la télé nous dire qu'il y a un moteur qui est tombé en panne en novembre 2018 et c'est en mai 2019 qu'on cherche à trouver la solution. Ça fait près de 3 ans successifs et surtout c'est en période de Ramadan, on coupe l'eau, l'électricité. Donc la majorité de la population elle vit ça dans sa chair et c'est pas bon. Il devrait anticiper. Ça fait 3 ans. Le moteur qui est tombé en panne en 2018, pourquoi ne pas anticiper pendant la période où il est tombé en panne? Maintenant, on dit qu'il va venir par avion. Par avion, ça va coûter cher. Si on avait anticipé, peut-être ça va venir par bateau, ça va nous coûter moins cher. Donc, vous voyez, moi, je pense au niveau de la Nigeria qu'il y a un problème de gestion qui se pose.
Les petits commerces et autres activités nécessitant l'énergie électrique tournent au ralenti ou au pire, karma sont à l'arrêt.
Vraiment, ça ne va pas. Quelqu'un au moins qui peut descendre avec un petit 10 000, 15 000 qui descend avec 3 500, vraiment, ça a rabaissé tout. Pour les appareils, même la photocopieuse, il n'y a pas l'ondulé. L'ondulé, là, c'est gâté. Ma deuxième machine, 10 jours, là, ça s'est arrêté.
Ces coupures d'électricité posent à chaque fois la problématique de l'indépendance énergétique du Niger, pays sahélien par excellence, traversé sur plus de 500 km par l'un des plus grands fleuves d'Afrique, mais qui importe plus de 50% de sa consommation d'électricité de son géant voisin du Nigeria. Abdul Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le président américain Donald Trump a menacé hier d'imposer un droit de douane supplémentaire sur les importations mexicaines jusqu'à ce que les migrants clandestins cessent de traverser le Mexique pour venir aux États-Unis. Au Congrès, réformer les lois sur l'immigration est une question qui divise parmi bien d'autres. Voici un reportage de Michael Bowman, relaté par Chérubin Dorsil.
L'administration Trump a annoncé que les arrivées de migrants à partir du Mexique dépassent les 100 000 personnes par mois, un chiffre impressionnant. Carla Provo est chef de patrouille frontalière.
Au 30 avril, nous avons appréhendé 460 294 personnes à la frontière sud. Près de la moitié des adultes sont accompagnés d'enfants. Ils ont reçu un message clair. Venez avec un enfant et vous serez libérés.
Le président Donald Trump a répondu avec un plan durcissant les conditions de demande d'asile pour décourager l'afflux des migrants.
Les demandeurs d'asile légitimes sont remplacés par des demandes frivoles.
En plus de la construction du mur à la frontière mexicaine, le président Trump veut mettre en place un système d'immigration dit fondé sur le mérite qui favoriserait les migrants hautement qualifiés. La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, n'est pas du tout impressionnée.
Le mérite est vraiment un mot condescendant. Sont-ils en train de dire que la famille n'a aucun mérite?
Kathleen Rice est une élue démocrate.
Trump opte pour un mur qui ne sert qu'à renforcer son ego et à nuire à nos communautés.
Le Congrès est donc très divisé sur le sujet. Donald Trump accuse.
Les démocrates proposent des frontières ouvertes, des salaires plus bas et franchement le chaos.
L'immigration, un sujet difficile et qui divise. Hélène Camarque de la Brookings Institution.
Ce qui rend les choses difficiles, c'est que la question divise les deux parties. Trump parle de l'immigration comme si cela allait ruiner l'Amérique, alors que d'autres parlent de l'immigration comme la fondation de l'Amérique.
Un contentieux accouche rarement d'une loi pendant une année électorale. La campagne de 2020 étant déjà lancée, la fenêtre pour agir en matière d'immigration se réduit de jour en jour.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le jeûne du Ramadan s'observe du lever au coucher du soleil, une évidence pour les musulmans d'Afrique, mais pour leurs co-religionnaires d'autres parties du monde, comme ceux de l'État américain de l'Alaska, près du pôle Nord, c'est un défi de taille, un reportage de Youssouf Aradé, relaté par Lionel Gaïma.
En cette période de l'année, le soleil brille presque pendant 20 heures en Alaska. C'est dans ces conditions que Sédikou Mohamed et sa famille, venus du Ghana, observent le Ramadan.
Jeûner en Alaska est étonnant. Le soleil se lève à 4 heures du matin et se couche aux alentours de minuit. De ce fait, nous jeûnons de 4 heures du matin à minuit. De toute ma vie, je n'ai jamais jeûné plus de 12 heures d'affilée.
Malgré tout, les conditions ne sont pas aussi rudes qu'en Afrique de l'Ouest, estime Hadji Asirina, la mère de Mohamed.
Le temps est frais ici, si bien que je peux jeûner et ne même pas manger par la suite. Je n'ai pas du tout faim, mais au Ghana, à cause de la chaleur, vous avez hâte de rompre le jeûne. Depuis que je jeûne ici, je ne me suis jamais soucié de la durée de mon jeûne.
Certains musulmans d'Alaska choisissent de jeûner selon les horaires de la Mecque. C'est le cas pour Atao Chowdhury, originaire du Bangladesh, qui prie au centre islamique de Fairbanks.
En été, la journée peut durer jusqu'à 21 heures, mais à peine 3 heures en décembre. Les érudits nous ont recommandé de suivre un fuseau horaire normal. Nous suivons celui de la Mecque, notre lieu le plus saint. Nous jeûnons de 4 heures du matin à 7 heures de l'après-midi. Nous rompons le jeûne et nous passons à d'autres activités. Nous prions 5 fois par jour comme tout le monde.
Au fond, le Ramadan en Alaska n'est pas différent de celui de Bangladesh, assure Zakaria, la femme de Chowdhury.
Nous pouvons faire ici tout ce que nous faisions au pays, par exemple se détendre la nuit et ne pas travailler dans la journée. Impossible ici d'aller au travail au bon moment, mais nous demandons à Dieu d'accepter notre jeûne sur la base du temps en Alaska qui nous amène à rompre le jeûne alors qu'il fait encore jour.
En Alaska, État américain trois fois plus grand que le Nigeria, les musulmans assurent qu'ils honorent leurs traditions et obligations religieuses en dépit des journées d'une longueur inhabituelle.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, on se quitte, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot. À la console, Justin Twets. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Jacques Aristide.
Et c'était un plaisir d'être avec vous, Nathalie.
Un grand merci.
Et voilà, merci.
Va de même pour moi.
Absolument. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Toute l'équipe se joint à Nathalie et moi pour vous souhaiter un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.
Excellent week-end à tous. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.